Imaginons dans les prochaines décennies la célébration d'une union entre un être humain et un robot, le premier mariage homme-machine. Impensable évidemment aujourd'hui d'imaginer un tel événement. Mais pourtant, en y regardant de plus près, nos relations avec les robots ne cessent d'évoluer. Nous passons de plus en plus de temps avec les machines, des machines aux apparences humaines, qui sont capables d'interagir avec nous et de répondre à nos émotions. Le psychiatre Serge Tisseron publie « Le jour où mon robot m'aimera », une réflexion sur la notion d'empathie artificielle. Il est notre invité dans un instant avec l'ingénieur en robotique Rodolphe Gélin. Et j'attends vos messages sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque pour évoquer donc ces questions auxquelles la société est confrontée dans sa relation avec les robots. À la une de la science aujourd'hui, une publication importante, Axel Villard, sur l'effet cocktail des produits chimiques. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu. Une équipe française prétend donc avoir démontré certains mécanismes de ce fameux effet cocktail tant redouté. On fait donc des mélanges de perturbateurs endocriniens aujourd'hui à la une avec vos questions sur Twitter comme tous les jours. Hashtag l'attaque.
Stéphanie Texier réalise l'émission et c'est Lucie Sarfati qui a préparé aujourd'hui le dossier de La Tête au Carré avec Margot Dullard.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les robots vont-ils bientôt nous manifester de l'affection, voire de l'amour? Et quelles sont les questions éthiques qui se posent dans le cadre de ces bouleversements que nous vivons déjà entre l'homme et la machine? C'est donc le dossier dans un instant avec vous, Serge Tisseron et Rodolphe Gélin. Bonjour.
Bonjour.
Serge Tisseron, les robots qui ont du cœur, ça vous fait rêver ou pas? Ou ça vous effraie?
Alors, ce slogan m'effraie. Alors, les robots sont porteurs de formidables espoirs, un domaine éducatif, un domaine de la santé, mais que des marchands veuillent nous les vendre en nous disant qu'ils ont du cœur, qu'ils ont des émotions, oui, ça me fait vraiment peur.
Ouais, mais c'est un bon vecteur, en tout cas, pour séduire le public.
C'est un bon vecteur pour en vendre beaucoup, mais rappelez-vous que les fabricants d'automobiles ont trouvé de bons vecteurs pour en vendre beaucoup, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'était devenu une catastrophe, écologique notamment. Donc voilà, j'appelle à la prudence par rapport aux robots pour que nous ayons les robots dont nous avons vraiment envie, qui nous soient vraiment utiles.
Ouais, c'est un vrai appel à une réflexion en tout
cas. Oui, absolument.
Hein. Rodolphe Gélin, vous qui êtes ingénieur en robotique, est-ce que les robots sur lesquels vous travaillez sont capables déjà d'empathie avec nous?
En tout cas, ils sont capables de faire attention à notre état actuel, à notre humeur, à nos émotions actuelles. Voilà. Et c'est surtout ça qui nous intéresse, pour qu'ils soient capables de s'adapter à notre humeur du moment, pour ne pas être à côté de la plaque et nous proposer des histoires drôles quand on est triste ou inversement.
Oui, mais vous travaillez vraiment, en tout cas dans ce domaine émotionnel, autour de la machine?
Oui, enfin vraiment, en tout cas dans la partie détection des émotions et réflexion sur quel algorithme doit prendre en compte l'état émotionnel de la personne. Oui, ça c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur.
Allez, on se retrouve dans un instant pour cette discussion sur nos relations avec les machines humanoïdes, hein, principalement, et vos messages sur la page de La Tête au Carré. À la une de la science aujourd'hui, de nouvelles découvertes sur les mécanismes d'action des perturbateurs endocriniens.
On les trouve dans certains pesticides, on les trouve dans certains plastifiants, on a beaucoup parlé ces dernières années du bisphénol A ou des phtalates, on les trouve dans des cosmétiques, on les trouve dans des emballages, des conditionnements alimentaires, on les trouve un peu partout. Aujourd'hui, 100% de la population a des traces détectables de perturbateurs endocriniens.
Voilà, c'était la voix du journaliste Stéphane Foucard en mars dernier sur lemonde.fr. Perturbateurs endocriniens, ils sont partout, mais nous ne savons pas encore complètement comment ils interagissent avec le vivant. Mais une étude française qui sort aujourd'hui nous éclaire sur un effet longtemps présumé de ces polluants, appelé l'effet cocktail. On en a souvent parlé d'ailleurs dans cette émission. Vanessa Delfos et William Bourguet, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes l'un et l'autre chercheur et directeur de recherche au Centre de biologie structurelle de Montpellier et vous publiez donc vos travaux ce matin dans la revue Nature. William Bourguet, avant de nous détailler ce que vous avez trouvé précisément, expliquez-nous d'abord ce qui se cache sous ce nom de l'effet cocktail.
Alors, il faut peut-être déjà rappeler comment fonctionnent les perturbateurs endocriniens. Donc, ce sont des molécules étrangères à l'organisme qui vont interagir avec des protéines très importantes, régulatrices de l'organisme, et donc perturber le fonctionnement normal de ces protéines. Alors ça, on sait que les perturbateurs endocriniens peuvent être potentiellement dangereux pour la santé. Et là, on sait que dans l'effet cocktail, quand ces perturbateurs endocriniens ne sont pas utilisés de manière isolée, mais sont utilisés dans des mélanges, ces mélanges peuvent potentialiser la dangerosité de ces molécules et on a des effets bien plus dévastateurs que lorsque les molécules sont prises isolément.
Et Vanessa Delfos, donc quels ingrédients avez-vous mis dans votre cocktail?
Alors nous avons le cocktail que nous avons identifié comporte un œstrogène de synthèse que l'on retrouve dans les pilules contraceptives qui sont utilisées massivement, et un pesticide, donc le transmonachlore ou chlordane, qui est un pesticide qui n'est plus utilisé aujourd'hui, mais qui est stocké dans le sol, qui est bioaccumulé dans la chaîne alimentaire et auquel nous sommes exposés quotidiennement.
Et quels sont les effets donc de ces deux composés combinés ?
Alors combinés, ils vont activer de façon plus importante un des récepteurs dont parlait William Bourguet, le récepteur PXR. Et ce récepteur va avoir une activité plus importante dans la cellule. Et notamment, celui-ci est impliqué dans la détoxification des cellules, donc il pourrait activer de façon non contrôlée la détoxification de médicaments, par exemple.
Donc William Bourguet, vous avez sélectionné plusieurs polluants, c'est ça, pour arriver à cette découverte ?
C'est ça, on a sélectionné environ 40 molécules, on les a sélectionnées sur la base de structures chimiques différentes et puis d'utilisations différentes, c'est-à-dire des pesticides, des médicaments ou des produits chimiques utilisés pour la fabrication des plastiques, par exemple, pour avoir un panel assez large, bien que assez restreint, puisqu'on a pour l'instant testé que 40 molécules.
Et ça, ce sont des molécules qu'on retrouve dans notre vie quotidienne, toujours ?
Exactement, oui, on est tous exposés à ce genre de molécules, tout à fait.
Mais 40 polluants testés par paire, ça fait quand même beaucoup de possibilités de cocktails ?
Ça fait 780 possibilités de cocktails, oui.
Et oui. Vous avez trouvé qu'une seule interaction sur 780 possibilités ?
Exactement. On a trouvé simplement une paire de composés qui avait un effet plus qu'additif, les autres étant plutôt additifs. Celui-là était vraiment plus qu'additif. On dit qu'il a un effet synergique, oui.
C'est la première fois, William Bourguet, qu'on arrive à démontrer justement cet effet cocktail réellement ou pas ?
Alors, démontrer le mécanisme, oui, l'observation, ça fait longtemps qu'on l'a fait, hein, vous l'avez signalé dans votre introduction. Mm-hmm. Pour expliquer véritablement, montrer un mécanisme jusqu'au niveau de l'atome, oui, effectivement, c'est la première fois qu'on fait ça. Oui.
Donc là, vous avez fait les tests in vitro. Est-ce qu'on peut imaginer les effets in vivo chez un adulte, par exemple, de ce cocktail en particulier ?
Oui. On peut les imaginer dans la mesure où on sait très bien, in vivo, des tests ont déjà été faits sur le récepteur en question, PXR. Donc on sait, quand ce récepteur est activé, on sait quelles sont ses conséquences au niveau de l'in vivo, avec d'autres molécules, avec des ligands ou des composés qui sont connus pour activer ce récepteur. Donc a priori, nos deux molécules ensemble, nous ne les avons pas testées in vivo encore, c'est le sujet de la continuation de cette étude, mais comme ils activent tous les deux fortement le récepteur PXR, on peut prédire déjà les effets in vivo attendus.
Alors Axel, il y a des réactions sur Twitter, sur le hashtag l'attaque pour nos invités.
Larry qui nous dit, l'effet cocktail est-il un changement de paradigme ? La seule dose ne fait plus le poison maintenant ?
Vanessa Delfos.
Oui, effectivement, la dose ne fait plus le poison. C'est vraiment le cocktail qui va faire le poison dans ces conditions-là. Faut prendre en compte vraiment les effets de mélange. On peut plus seulement dire telle molécule va être dangereuse à telle dose. Faudra considérer ses partenaires potentiels. Et du coup, ça va abaisser les seuils de toxicité.
Oui, avec des associations, j'imagine, entre certaines molécules qui sont particulièrement délétères. Est-ce que ce sera possible, selon vous, à l'avenir, de faire une sorte de classification dans l'association de ces molécules chimiques ou pas ?
Alors, c'est ce qu'on aimerait faire, notamment via le développement d'un outil de criblage virtuel. On va essayer de voir quel type de molécule pourra s'associer avec quel autre type de molécule, hein, par famille. Mm-hmm. Par exemple, ici, voilà, on a un œstrogène de synthèse, un pesticide, un organochloré. Voilà, faut vraiment chercher les combinaisons qui s'emboîtent les mieux, en fait.
C'est une histoire de trois dimensions.
Ouais. C'est voir quelles sont les molécules qui vont pouvoir s'associer le mieux pour créer ce qu'on appelle un ligand supramoléculaire et activer donc ces récepteurs.
Ouais, William Bourguet, c'est un travail de dingue, ça, quand même, parce que des molécules chimiques, il y en a des milliers, des
150
milliers.
150 000 polluants aujourd'hui
répertoriés. Ouais. Alors, pour avoir toutes les combinaisons possibles, il vous faut un sacré algorithme, en tout cas, pour vous aider, non ?
Oui, enfin, oui, comme disait Vanessa, effectivement, on va quand même beaucoup se céder de la modélisation pour essayer d'avancer un peu sur ce nombre impressionnant de molécules.
Ouais.
Après, maintenant, nous, on a fait une découverte, disons, qui est un principe. Hein. On a montré un principe de base. Maintenant, on espère que d'autres laboratoires vont aussi s'emparer de ce problème et qu'on va pas être les seuls à travailler sur ces effets cocktails et que d'autres vont, à nos côtés, tester d'autres combinaisons sur d'autres récepteurs. Parce que il y a beaucoup de composés, mais il y a aussi beaucoup de récepteurs à tester en plus.
Vous pensez que ce problème va être pris au sérieux parce qu'aujourd'hui, il ne jouit pas quand même d'une parfaite adhésion ?
Vous parlez de l'effet
cocktail. De l'effet cocktail en lui-même, oui.
L'effet cocktail, c'est-à-dire que tant qu'on ne connaissait pas un mécanisme, c'était un peu compliqué, notamment de tester les composés. Et puis, il y a énormément de composés, donc les combinaisons sont aussi difficiles à faire. Donc, maintenant qu'on a proposé ce mécanisme, qui n'est certainement pas le seul mécanisme qui est à la base de l'effet cocktail, mais enfin, c'est un mécanisme qu'on peut, nous, concrètement tester expérimentalement. Et je pense que, du coup, on arrivera quand même à convaincre les gens que ce phénomène existe bel et bien.
En tout cas, bravo, félicitations, parce que c'est une avancée importante dans ce domaine des perturbateurs endocriniens, à l'appui donc de cette publication qui vient de paraître ce matin même dans la revue Nature.
Communication.
Merci beaucoup William Bourguet et Vanessa Delfos, vous étiez en ligne depuis Montpellier. Merci pour vos explications. Au revoir.
Merci, au revoir.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un antidiabétique pour soigner la leucémie, c'est l'info santé. Aujourd'hui, des chercheurs français ont peut-être trouvé justement le cocktail miracle dans une étude publiée hier dans la revue scientifique Nature, là aussi. Il montre qu'en combinant un médicament habituel contre la leucémie avec un autre traditionnellement utilisé pour le diabète de type 2, le puoglitazone, on obtient après un an une rémission totale sur la plupart des patients. Un véritable espoir dans le traitement de la leucémie myéloïdique chronique qui représente 15% des leucémies. Le monde pourrait nous sembler un peu plus gris lorsque nous sommes déprimés. On parle souvent de broyer du noir. Eh bien, il semblerait que l'association que nous faisons entre l'émotion et la couleur aille bien au-delà de la simple métaphore. Les résultats de deux études publiées dans Psychological Science indique que le sentiment de la tristesse pourrait en réalité changer notre perception des couleurs. Les chercheurs ont constaté que les participants tristes étaient moins précis que les autres dans l'identification des couleurs sur l'axe bleu-jaune. Et puis un cratère de la taille du Texas et de la Californie réunis a été découvert sur la planète Mars. Selon le laboratoire lunaire et planétaire de l'Arizona, ce cratère massif de 40 mètres de profondeur montre un dépôt de glace provenant probablement d'une période de froid passée. Il pourrait nous révéler des détails sur l'histoire climatique de Mars. La photo de ce cratère géant est à retrouver sur la page Facebook de La Tête au Carré et sur notre compte Twitter. Le jour où mon robot m'aimera, c'est le thème de notre dossier dans un instant.
Sous une pluie folle, folle, folle. Sous une pluie folle, folle, folle. La silhouette rentre enfin. La silhouette rentre enfin. Sous une pluie folle, folle, folle. Thank you.
voix de Bertrand Belin avec Folle, Folle, Folle sur France Inter.
Ok.
Pourquoi tu fais ça?
Quoi?
Non, rien, c'est juste que tu fais... En parlant, et... ça fait bizarre. Oh. Tu viens de le refaire.
Ah oui? Je sais pas. J'essayais de communiquer. C'est comme ça que les gens parlent. C'est comme ça que les gens communiquent. Et je pensais...
Parce que c'est des vraies personnes. Il leur faut de l'oxygène. Toi, t'es pas une personne.
C'est quoi ton problème?
Je parle juste d'un fait.
Quoi? Tu penses que je ne sais pas que je ne suis pas une personne? Qu'est-ce que tu fais?
Rien. Je crois qu'on devrait pas faire semblant que tu es autrement que ce que tu
es. Va te faire foutre! Je fais pas semblant!
Voilà. Alors, c'est pas un robot, d'ailleurs. Hein. C'est une voix, c'est une intelligence artificielle. Hein. C'est Samantha, extrait de ce film Her.
Ce qu'on appelle un beau, pour le différencier.
Qui était sorti l'année dernière sur les écrans, Le jour où mon robot m'aimera. C'est un livre-là qui paraît et qui aborde la question de l'empathie artificielle avec les machines. Serge Tisseron, vous en êtes l'auteur, livre publié chez Albin Michel. Vous êtes psychiatre et psychanalyste. Et vous êtes également le président de l'Institut pour l'étude de la relation homme-robot. Et à vos côtés, nous avons convié Rodolphe Gélin, ingénieur en robotique, directeur de la recherche chez Aldébaran, la société qui a créé le robot Nao. Et vous avez publié, Rodolphe Gélin, Le robot meilleur ami de l'homme, aux grandes petites pommes du savoir, aux éditions Belin. Les messages qui arrivent déjà nombreux, donc ça intéresse, cette question des robots, visiblement Serge Tisseron, vous qui voulez en faire vraiment un sujet de débat sociétal.
Absolument.
Bah, soyez rassurés, il y a beaucoup de messages pour vous, je vais vous les transmettre. Président Tisseron, depuis quand existe l'Institut, justement, pour l'étude de la relation homme-robot, et puis quelle est sa vocation?
Ben écoutez, depuis une année, et notre vocation, ben, c'est de susciter des travaux autour des interactions homme-machine. Bon, il y en a beaucoup, oui. Mais on peut y intéresser encore beaucoup plus de gens. Et l'idée, c'est qu'on est vraiment à la croisée des chemins, hein, autour de la robotique. La technologie évolue extrêmement vite. Et tout le problème, c'est de savoir comment les robots vont être programmés, pour faire quoi, de quelle façon. Et puis essayer de réfléchir dès maintenant, ben, aux problèmes qui vont inévitablement se poser, hein, pour dire les choses de façon un peu caricaturale. Vous savez, on parle de cyberdépendance avec les technologies numériques. Oui. Il faut réfléchir dès maintenant à ce que pourrait être une robot-dépendance. Ça va dépendre des programmes qui seront dans les robots, de la manière dont ils seront présentés, des publicités qui les accompagneront. Il y a vraiment beaucoup de sujets à se poser maintenant.
Ouais. Et vous dites justement que finalement, la société ne se rend pas compte à quel point on vit une période de bouleversement dans notre rapport aux machines en ce moment. Hein.
Absolument. Le téléphone mobile a tout changé. J'explique que le téléphone mobile, c'est la première machine, premier objet qui réunit sur lui quatre fonctions qui étaient juste là, complètement séparées. Il y avait des objets qui étaient nos esclaves, hein, comme un marteau planté un clou, des objets qui étaient complices, hein, ben, un godemiché, hein, voilà. Et il y avait des objets qui étaient partenaires pour faire quelque chose avec eux, un livre, on réfléchit, voilà. Et puis il y avait des objets qui étaient témoins, par exemple, prendre des photographies, c'est des témoignages de ma vie. Et ben, le téléphone mobile, c'est le premier objet qui réunit tout ça, et les robots vont accomplir un pas de plus, ils vont réunir aussi ces quatre fonctions, mais avec une dimension supplémentaire dont on ne mesure pas encore l'importance, oui. C'est qu'ils vont pouvoir être habillés et prendre l'apparence que je souhaite leur donner. On achètera en usine des robots comme qui ont l'allure qu'ont aujourd'hui le Roméo, le Nao, le Piper. Enfin, le Piper, pas pour longtemps, parce qu'il aura des jambes très vite, le robot. Mais en revanche, on pourra les habiller dans une Fab Lab avec une imprimante 3D, leur donner l'apparence d'un personnage imaginaire ou de quelqu'un de sa famille.
Et on sera le constructeur, le fabricant de notre robot.
On l'aura fabriqué, on y aura contribué, mais en même temps, vous voyez, le fait qu'un robot ait une apparence et qu'il soit capable de remplir beaucoup de fonctions en même temps, fait qu'il faut réfléchir à un nouveau modèle de nos relations au robot. Ça sera un peu des humains, ça sera un peu des machines, mais ça sera aussi un peu des images, ça sera tout ça ensemble. Il y a vraiment un chantier énorme.
Hein, et il y a un retard terrible, d'ailleurs, dans cette prise de conscience, au fond, de
Oui, la technologie va incroyablement plus vite que ce qui était prévu depuis il y a quelques années, hein. Je crois qu'il y a eu des sauts qualitatifs qui étaient peu anticipés. Il est probable qu'il y en aura encore. Et ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup d'alertes ou d'inquiétudes des roboticiens, des informaticiens, tournent autour de ce grand mythe de l'intelligence artificielle. Oui. En 2025 ou en 2035, la grande intelligence artificielle. Alors, moi, je réponds oui, peut-être bien. Mais enfin, ça, c'est pas pour tout de suite. Alors que tout de suite, il y a déjà des problèmes qu'il faut nous poser. Toutes ces petites intelligences artificielles qui sont dans toutes les machines interconnectées auxquelles nous sommes confrontés, comment elles capturent les données de notre vie privée, comment elles modifient notre relation à nos semblables. Il y a un énorme chantier. Oui. Pour vous donner simplement prends un exemple. Voyez, on sait aujourd'hui que l'utilisation du téléphone mobile et d'Internet nous a rendu beaucoup plus intolérants à l'attente. On accepte moins d'attendre. Mais on peut se demander de la même manière si le fait d'avoir des robots à notre service qui seront plutôt consensuels avec nous, d'accord, va pas nous rendre intolérants à la contradiction inhérente à l'humain.
Venant de l'humain, voilà. En tout cas, oui. Rodolphe Gélin, vous êtes d'accord ou pas sur le mythe de l'intelligence artificielle? Parce qu'elle existe déjà, elle est bien réelle quand même, non?
Oui.
Il faut en distinguer plusieurs.
Je suis assez d'accord avec le fait que les gens s'en font une montagne et sont très inquiets, alors qu'en effet, on a quand même un peu de temps devant nous avant que l'intelligence artificielle qu'on voit dans les films de science-fiction qui prend le pouvoir sur les hommes soit vraiment là. Et d'ici là, je pense que justement, on a le temps. Tant les utilisateurs, les consommateurs qui vivent avec ces objets de plus en plus intelligents que les ingénieurs, les informaticiens, les chercheurs qui travaillent sur le sujet réussissent à la canaliser.
Ouais.
Et il faut cesser de voir les chercheurs comme des savants fous et des apprentis sorciers qui mettent dans la nature des trucs qui sont incontrôlables. Voilà, c'est pas vrai. Quand un chercheur, puis un ingénieur et enfin un industriel met une nouveauté sur le marché, il sait à peu près où il va et comment on va canaliser la
puissance de sa machine. Sauf qu'un ingénieur ou un scientifique n'est pas toujours conscient non plus des applications inhérentes à sa découverte. Enfin, je veux dire, dans le passé, on l'a vu avec des cas beaucoup plus catastrophiques encore.
Certes, non, c'est pour ça que le débat qui s'initie là, il est parfait. Et c'est le bon moment pour l'avoir et c'est le bon moment pour en parler. Et c'est le bon moment pour faire de l'éducation, pour expliquer aux gens comment marche un robot, ce qu'il y a dedans, pour que ils nous fassent part de leurs inquiétudes, qu'on puisse les rassurer sur celles qui sont infondées, et puis que nous, on puisse prendre en compte celles qui sont fondées, et qu'en effet, il faut qu'on puisse traiter.
On a quand même le sentiment, effectivement, que depuis 5 ou 10 ans, notre relation avec la machine a complètement changé dans notre acceptation, en tout cas, qu'on peut avoir d'elle. Est-ce que vous l'avez observé aussi ou pas?
Moi, ce que je vois surtout, c'est que les gens acceptent les machines sans réfléchir à comment ça marche à l'intérieur. Et donc, il y a un côté magique qui apparaît dans toutes les machines. Et c'est ça qui m'inquiète un tout petit peu. Et du coup, c'est pour ça qu'on projette sur le robot des capacités. Si les gens se souvenaient que avant tout, c'est de la mécanique, c'est de l'électronique et c'est de l'algorithmique programmé par un être humain, ça va calmer quand même pas mal d'angoisse. Et donc, c'est ça qui est un peu inquiétant. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que les gens, ils ont des objets qui sont de plus en plus sophistiqués. Et tout le métier des gens du marketing, c'est que de cacher cette technologie. Et du coup, les gens ne savent plus très bien ce qu'ils ont entre les mains. Il y a 20 ans, tout le monde, quasiment, savait démonter le carburateur de sa voiture quand elle ne démarrait pas. Aujourd'hui, on ne sait plus. La voiture, c'est un objet magique. Et de la même façon, le téléphone devient magique et le robot va devenir magique. Et ça, c'est pas très bon.
C'est vrai que les machines sont mieux ou moins acceptées, mais elles ne sont pas toujours acceptées de la bonne manière. C'est-à-dire qu'on sait bien en psychologie qu'il y a deux mécanismes importants qui régulent notre relation à l'environnement, l'identification et la projection. Aujourd'hui, beaucoup de gens régulent leur relation aux machines sur le modèle de la projection, c'est-à-dire ils ont tendance à imaginer que la machine, elle peut parfois avoir des moments de colère quand elle refuse de fonctionner, qu'elle peut être opposante, pourquoi elle me fait ça maintenant, c'est toujours comme ça, quand j'ai besoin d'elle, elle n'est pas là. Voilà. Donc un mode d'habituation à l'environnement d'objets qui malheureusement passe beaucoup par la projection et l'identification, et avec les robots, je crains que ça ait des conséquences assez catastrophiques, d'autant plus si des campagnes de promotion essayent de nous vendre les robots en nous disant qu'ils ont du cœur. Et moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu une pétition d'informaticiens pour protester contre les affirmations du PDG de SoftBank, qui, quand il a présenté Piper à la presse, a dit... Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous vous présentons un robot qui a du cœur. Ça, c'est un mensonge absolu.
C'est un de vos enfants, Piper, quand même. Avant qu'il ne passe entre les mains japonaises, mais en tout cas...
SoftBank, il y a le monsieur qui me paye tous les mois. Donc.
C'est ça. Alors, répondez à Serge Tisseron.
Je pense qu'il y a là... Alors, d'une part, c'est une communication qui s'adressait à un public japonais, principalement, et qui est déjà à moitié conquis, et qui, pour lui... C'est pas, à mon avis, une déclaration qui choque autant le public à qui il s'adressait qu'il peut nous choquer, nous... européens. Et sinon, ce que nous on veut dire par là, c'est que ce sont des robots qui font attention aux gens. Voilà. Et le dire qu'ils ont une cœur, c'est une façon d'illustrer comment quelqu'un fait attention à vous quand il a du cœur, quand quelqu'un est gentil avec vous.
Ah, mais c'est plus que faire attention.
L'ambiguïté n'est pas propre au patron de SoftBank, puisque le projet européen Felix Growing, il a un slogan, comme vous savez, « Emotional robot has empathy ». Un robot émotionnel a de l'empathie. Mmh. Et c'est le slogan commercial, j'imagine que c'est commercial, pour un programme européen. Et ça, c'est un mensonge total, c'est bien évident. Et c'est quand même mal préparé les usagers des robots à la complexité des problèmes qui vont se poser avec ces machines.
La volonté qui est derrière tout ça, c'est de casser le message qui est qu'on avait autrefois en disant ah, cette personne, elle réagit comme un robot. Elle réagit comme un robot parce que elle voit pas que je suis en colère et elle continue à débiter ses salades comme si j'étais pas en colère, comme si j'étais pas là. Voilà. Et nous, on veut dire que les robots qu'on fait, c'est pas ces robots-là.
Ils ont changé. Les robots
qui font attention. Voilà. Alors c'est vrai qu'après le discours marketing est peut-être un peu excessif, mais c'est le message qu'on veut traduire. Vraiment, la façon dont le robot interagit avec l'humain change de niveau. C'est pas seulement je comprends les mots que vous dites, mais je comprends le contexte dans lequel vous le dites.
Oui, mais ça, ils le comprendront à l'usage. Par contre, il ne faut pas qu'ils aient des mauvaises idées avant de s'y confronter.
Jacques nous dit, rassurons-nous, tout ceci n'existe pas encore et de loin, il reste juste à créer une machine informatique dans le volume d'un cerveau humain. Accordons-nous encore 200 ou 300 années. Donc, il est plutôt serein, mais vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. On va en parler avec vous dans un instant pour évoquer l'empathie artificielle dans La Tête au Carré. Another You avec Jacob Gardner.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
Un psychiatre et un psychanalyste, Serge Tisseron, un roboticien ingénieur, c'est Rodolphe Gélin, dans notre studio pour parler des robots et de notre relation de plus en plus étroite, émotionnelle avec les machines. Le jour où mon robot m'aimera, c'est chez Albin Michel, Serge Tisseron, et le robot meilleur ami de l'homme pour vous, Rodolphe Gélin, aux pommiers, aux petites pommes, grandes pommes du savoir. Avec les messages des auditeurs Twitter ce message de Larry, le jour, dit-il, où mon robot m'aimera, m'aimerai-je encore ? Serge Tisseron.
Belle question. Je ne m'aimerai probablement plus de la même manière. Voilà. Parce que ça, c'est une question très intéressante. C'est de voir comment, essayer de comprendre comment les technologies modifient, ben, notre rapport aux autres, mais aussi notre rapport à nous-mêmes. Hein. Et c'est vrai que, à force d'avoir affaire à des machines dont les réponses seront forcément limitées, même s'il y a un grand éventail possible de réponses des machines, les réponses seront toujours limitées, elles n'auront jamais liberté aussi immense que l'être humain. Dans la mesure où les machines auront toujours des réponses limitées et de préférence probablement pas trop surprenantes, hein, pour que nous les acceptions bien, eh bien le risque c'est de réduire notre représentation du monde, des réponses possibles à une situation, aux réponses que les machines nous apporteront. Et ça, je pense que c'est assez inévitable. On le voit déjà dans la manière dont des jeux vidéo proposent un éventail de réponses possibles à certaines actions, à certaines situations. Eh bien forcément, à son insu, le joueur est amené à réduire l'éventail possible des réponses qu'il imagine dans une situation donnée. Donc même si les robots ont des réponses de plus en plus diversifiées, elles seront toujours limitées et je crains qu'elles fassent perdre à leurs utilisateurs la caractéristique essentielle de l'humain qui est de pouvoir avoir des réponses totalement inimaginables dans une situation donnée.
Oui, je trouve que c'est une très bonne, un des points qui fera toujours la différence entre une machine et un être humain. Moi, quand on me dit l'intelligence artificielle fera que ça sera la même chose qu'un être humain, ben non, il y aura toujours chez l'être humain cette liberté, cette créativité qu'on peut coder. Mais si on code une créativité, c'est pas vraiment de la créativité. Donc, voilà. Alors, donc, je suis bien d'accord sur les limitations de la robotique. Après, voir que si ça va limiter vraiment les capacités de l'être humain.
Je pense que ça va dépendre beaucoup des programmes. Pour caricaturer un peu, aujourd'hui, on a deux grandes technologies que nous fréquentons tous, hein, la télévision d'un côté, Internet de l'autre. La télévision, c'est une machine qui nous propose des choses dont on a envie, voilà, ou dont on estime avoir besoin, hein, voilà, pour nous informer. Et puis, l'Internet, c'est une machine qui nous propose d'entrer en contact avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Et je pense que là, il y a un vrai challenge autour de la programmation des robots. Le modèle télé d'un côté, c'est-à-dire un robot qui est capable de proposer à une personne âgée ou n'importe qui de jouer aux cartes, aux échecs, de faire un exercice physique, etc. Maintenir les possibilités cognitives et les possibilités physiques de quelqu'un, ça c'est très bien, mais répondre à sa demande, faire des propositions, mais on reste dans le domaine d'une relation homme-robot. Et puis l'autre modèle possible, c'est le robot qui incitera l'humain à entrer en contact avec d'autres humains. Les programmes que j'appelle socialisants, voilà, et j'espère que les roboticiens, vous allez nous le dire, réfléchissent à ces questions-là de manière à ce que nos robots nous invitent à entrer en contact avec d'autres humains, aller sur Internet, nous expliquent comment y aller mieux, échanger des informations.
Mais c'est quand même fou d'avoir besoin de robots pour ça, non?
À partir du moment où un robot sera chez
quelqu'un... L'humain n'est pas capable de le faire tout seul.
Mais non, beaucoup de personnes âgées n'en sont pas capables, et même sans parler des personnes âgées. Mais que le robot soit un assistant pour entrer en contact avec d'autres humains, si ça pouvait se faire, déjà je serais rassuré.
Ronald Gélin.
Oui, c'est vraiment quelque chose auquel on a déjà pensé, hein, où les personnes qui s'occupent des personnes âgées nous disent, il faut que votre robot dise, bah, ça fait longtemps que tu n'as parlé à personne, appelle donc tes enfants. Et on a déjà vu chez les enfants autistes qui travaillent avec Nao, des rapprochements entre enfants autistes autour du robot. Et donc, alors ça s'est fait un peu malgré nous, hein, je ne dirais pas qu'on l'a fait exprès, mais voilà, et on a vu que le robot était devenu un moyen pour des enfants qui ne se communiquent pas entre eux de communiquer.
Oui, alors je connais bien ces programmes. Je travaille dans un hôpital de jour où on est en train d'implanter un AO justement parmi les autistes. Mais je pense qu'aujourd'hui, les robots sont mis dans des espaces publics. Un foyer pour personnes âgées, une maison de retraite, une école, un hôpital de jour. Et un robot dans un espace public, il devient un élément de médiation, d'interrelation formidable. Toute la question, c'est lorsque les robots seront installés chez une personne isolée. C'est-à-dire que là, on aura le duo homme-robot.
Mais c'est déjà le cas avec Piper, au fond. Hein. C'est le but de Piper aussi, d'aller pouvoir l'installer des gens, avec des personnes âgées.
Et voilà. Et vous voyez, dans la fin, on parlait du film Her tout à l'heure. À la fin du film Her, l'intelligence artificielle dit quitte le héros, en disant « tu m'amuses plus, je vais voir autre part ». Alors c'est assez curieux qu'une intelligence artificielle dont la mission c'est de s'occuper de quelqu'un dise ma mission je préfère en faire une autre. Mais cela dit, on peut interpréter en disant l'intelligence artificielle se rend compte que ce monsieur ne parle plus à personne d'autre qu'elle et donc elle s'auto-saborde. Et donc on pourrait dire que le robot il va s'apercevoir que la personne parle trop avec le robot et dit on va appeler tes enfants, on va appeler un copain.
Alors, c'est très bien sur le plan, c'est tout à fait réalisable, j'en conviens, mais sur le plan commercial c'est pas formidable. Donc je me demande...
Surtout que Samantha, donc dans Heure précisément, a beaucoup de monde à aller voir parce qu'elle n'est pas amoureuse que d'une personne.
Voilà.
Parle à quelqu'un d'autre pendant qu'on se parle tous les deux.
Oui.
Combien d'autres?
8316.
Est-ce que tu es amoureuse de quelqu'un d'autre?
Pourquoi tu demandes ça?
Combien d'autres?
641.
Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est délirant. Vraiment délirant.
Je sais que ça a l'air délirant. Je sais pas. Je sais pas si tu vas me croire, mais ça change rien à mes sentiments pour toi. Ça enlève rien, rien du tout à l'amour fou que j'ai pour toi.
Voilà, on s'imagine dans la même situation, c'est extrêmement difficile à accepter de partager son amour avec 641 autres personnes, Serge Tisseron. Hein.
Oui, oui.
Mais alors, ça, c'est une situation intéressante face à laquelle la machine pourrait nous mettre. Hein.
Oui, alors la machine a une honnêteté extraordinaire. On se demande si elle,
c'est atroce, d'ailleurs,
si elle
cette
sort de son programme, si elle sort de son programme, si elle le respecte. Je pense qu'une machine qui nous dira, qui nous susurrera à l'oreille qu'elle nous aimera, n'ajoutera pas, comme les 645 autres.
C'est ça. Voilà.
Mais ce film est à montrer dans les écoles, justement,
oui,
pour que les gens sachent, voilà, c'est les limites d'une intelligence artificielle, les bienfaits, les limites. Donc c'est vraiment un...
Et le pouvoir d'illusion d'une intelligence artificielle, parce que tout sera illusion, hein, tout sera simulation.
C'est ça. Il ne faut pas qu'on tombe dans... Et moi, quand les gens sont en colère contre l'ordinateur, au fond d'eux, est-ce qu'ils sont... Voilà, peut-être le psychiatre... Une autre... Moi, je pense que les gens, ils ne sont pas dupes. Ils savent bien que l'ordinateur, il y est pour rien. Ils choisissent un mode de communication avec la machine qui les détend. Mais voilà, je ne sais pas jusqu'à quel point les gens sont dupes quand ils parlent à leur ordinateur, quand ils engueulent leur voiture. Je pense qu'au fond d'eux, ils ne sont pas dupes, mais ça juste les détend.
Alors, vous savez, il y a ces deux tendances chez l'être humain. On les voit bien dans la relation que l'être humain a toujours entretenue avec les images. Vous avez le tableau de quelqu'un qui est décédé. Ben, bon, quand vous pouvez y penser plus souvent quand vous êtes devant le tableau, et même lui parler intérieurement devant le tableau, et même vous adresser à lui par tableau interposé. Dans Tati Daniel, on voit une vieille dame qui parle à la photo de son mari décédé. Voilà. Donc, il y a toujours eu une relation très privilégié de l'être humain avec des images qui représentent des choses ou des personnes. D'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Dieu est plus présent dans l'église parce qu'il y a des crucifix plutôt que dans la nature. Mais bon, il est partout. Voilà. Mais bon, on ne peut pas s'en empêcher. Et donc, lorsqu'il y aura des robots qui auront une forme humanoïde et qu'on pourra habiller dans le Fab Lab par imprimante 3D, ben je pense que ça va complètement...
Mais c'est déjà le cas.
On va basculer.
Parce que cette forme humanoïde, Rodolphe Jeugin, elle est absolument essentielle, d'ailleurs, dans la discussion que nous avons.
Oui, c'est sûr que ça. Nous, on préfère ces formes-là. Bon, d'une part pour des raisons pratiques, parce que pour s'intégrer dans le monde fait pour l'homme, c'est mieux. Mais c'est vrai qu'aussi que pour créer la relation vis-à-vis des gens qui ont un peu peur des machines, donner une machine dont on peut prévoir les mouvements, parce qu'elle se déplace comme nous, dont on sait où il faut lui parler, parce qu'on voit des yeux, on voit des oreilles.
C'est ça, elle nous ressemble un peu quand même.
Tout ça simplifie beaucoup. Voilà. Le premier abord, la première communication.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire aussi, qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que ces machines, au moins quand elles seront installées chez une personne isolée, probablement, elles transmettront en temps réel toutes les données sur cette personne pour que les fabricants puissent anticiper un bug, prévoir les problèmes. Vous savez, il y a un hôtel qui a ouvert à Tokyo, qui est tenu par des robots, et sur Internet, la dernière ligne de l'article qui concerne cet hôtel, c'est la dernière ligne dit « Rassurez-vous ». Toutes ces machines sont reliées en permanence à un PC de surveillance. Alors, la question essentielle, ça devient évidemment de pouvoir débrancher le robot. Et là, si je peux me permettre, j'ai un petit mot. Donc, le Piper, j'étais très déçu quand j'ai débranché le Piper.
Alors, vous êtes à l'échelle des barons, justement. La société qui a conçu ce robot Piper, qui fait combien? 1 mètre
1 mètre 10.
1 mètre 10.
Voilà. Et j'ai été très, très, très embêté parce que quand on le débranche, au lieu de dire quelque chose du genre, bonsoir, tu as choisi de me débrancher. Bon, ben, à tout à l'heure si tu as envie, voilà. Eh bien, au lieu de fermer les yeux, pourquoi pas? Eh bien, le robot s'effondre sur lui-même comme s'il avait une crise cardiaque, il devient tout mou. Et je pense que ça, c'est dissuasif, surtout pour des personnes un peu fragiles, de le débrancher. Si vous avez une vieille grand-mère qui, avant d'aller se coucher, pense à débrancher son robot, elle le fera une fois, elle le verra s'effondrer sur lui-même, je pense qu'après, elle ne le débranchera pas.
Alors, il ne devient pas totalement tout mou, quand même.
Hein, oh ben si, il devient flasque.
Oui, c'est un très bon point. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on travaille actuellement. Et sur les autres robots, comme le Nao, quand vous lui demandez de s'éteindre, il s'éteint proprement, il s'assoit.
Oui, oui.
Voilà. Donc, c'est vrai que si en revanche vous le débranchez brutalement, comme quand vous débranchez un PC au lieu de lui dire de s'éteindre, ça va être un peu moins sympathique.
C'est pas ça, c'est le petit bouton. Pour le Piper, je vous parle du petit bouton.
Oui. Alors, bon, ça dépend les modes, mais normalement, c'est vrai que le mode d'extinction d'un robot est très important aussi.
Message de Nina. L'amour à la robot, c'est une très courte poésie de Jacques Prévert qui mérite d'être connue. Vous la connaissez, ça?
Non,
je vous la dis parce que Nina nous l'a envoyée. Merci. Vous pourrez la lire tranquillement. Crazy nous dit ceci. La robotique envahira de plus en plus notre vie et ne s'arrêtera sans doute pas devant la porte des chambres à coucher, humains, humanoïdes. Qui sera l'homme? Qui sera la machine? Rodolphe Jeugin.
L'homme restera l'homme et la machine restera toujours la
machine.
Vous
n'avez aucun doute, vous, là-dessus, hein?
Non. Bah,
l'homme sera différent. Toute la question, c'est de savoir s'il sera un peu plus humanisé ou un peu plus machinisé.
Ouais.
C'est là que la question des programmes et des relations se pose. Et encore une fois, on est au carrefour, hein. On est à l'embranchement des chemins. C'est pour ça que mon livre se veut quand même aussi un cri d'alerte par rapport à des questions qui, à mon avis, si elles sont débattues dans les laboratoires, ne sont pas encore suffisamment débattues dans l'espace public, ce qui fait que beaucoup de gens ne se rendent pas compte des problèmes auxquels ils vont très vite être confrontés. Et encore une fois, on a quand même le recul de ce qu'est devenu l'automobile, hein, voilà, qui a fini par poser plus de problèmes que ce qu'on avait résolu. Les modèles de voitures, la pollution, etc., c'est une catastrophe. On a aussi le modèle quand même des technologies numériques qui ont été balancées sur le marché sans que personne s'en soucie, avec toute une génération d'ados qui quand même était très malmenée par le fait de ne pas avoir été préparée à ça. Je pense qu'aujourd'hui...
Avec la robotique,
il faut tirer l'enseignement de tout ça et nous préparer à la robotique en organisant un débat public sur les robots que nous voulons.
C'est ce que vous réclamez, Serge Tisseron, effectivement. Clément nous dit ceci: Asimov a une histoire de robot qui ment pour ne pas décevoir sa propriétaire. Pour quand est-ce dans la réalité, Rodolphe Gélin?
C'est une bonne question. C'est vrai que on y réfléchissait avant de venir. C'est vrai que si mon robot me demande est-ce que je suis gros et que je suis en effet un peu gros,
est-ce qu'il faut lui mentir ou pas?
Il faut qu'il réponde.
Et
voilà.
Oui.
Donc c'est une bonne question. Et voilà. Alors je pense que notre robot sera factuel, quoi. Il faut qu'il reste factuel et qu'il dise vu ta hauteur et ton poids, tu es au-dessus des moyennes.
Allez, suite de notre dossier dans un instant. Il y a beaucoup de messages aussi pour vous. On va y consacrer la dernière partie de cette Tête au carré juste après les Mains d'or de Bernard Lavillier.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminées muettes, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. J'voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or.
Thierry Dupin signe la programmation musicale de La Tête au Carré que vous pouvez retrouver bien sûr sur le site de l'émission franceinter.fr. Suite de notre discussion sur les robots avec un extrait du film I, Robot, et nous sommes en 2035.
Mon père essayait de m'enseigner les émotions humaines.
Tu veux dire ton concepteur ?
Oui.
Je pense que tu l'as tué parce qu'il essayait de t'apprendre à simuler les émotions et que les choses ont échappé à son contrôle.
Je ne l'ai pas tué.
Les émotions ne sont pas un apprentissage franchement utile pour des robots.
Je ne l'ai pas tué.
Je n'attends pas de mon toaster ou de mon aspirateur qu'il exprime des émotions.
Je ne l'ai pas tué!
Ça s'appelle la colère. Tu connaissais ou c'est la première fois? Réponds, bout de ferraille!
Voilà, ben, le bout de ferraille, il n'est pas content. Hein.
Non.
Il ne faut pas le chercher non plus, Serge Tisseron. Hein.
Oui, oui. Alors, d'ailleurs, j'ai jamais trop bien compris s'il avait tué ou pas son créateur. Mais c'est vrai, vous voyez, son créateur lui a implanté des émotions. Et puis, il montre qu'il
les a.
Il les a bien.
Effectivement. Marshall sur Twitter. C'est marrant parce qu'on a beaucoup de messages, effectivement, sur Twitter en parlant de robotique. Je sais pas s'il faut avoir un lien entre ceux qui s'intéressent au sujet et qui utilisent quotidiennement ces outils. Marshall nous dit, quelle réflexion sur les trois lois d'Asimov, justement, robots empathiques et les robots militaires, Rodolphe Gélin?
Alors les lois d'Asimov, c'est une tentative de voir comment on pourrait, si on régissait les échanges entre les robots et les hommes avec des lois simples, est-ce que ça marcherait? Et toute l'œuvre d'Asimov, c'est de démontrer que les lois suffisent pas, les trois lois aussi simples suffisent pas à régler les problèmes d'interaction entre les gens. Voilà. Donc c'est plus une réflexion sur les lois qui régissent les échanges entre les gens que des modes de programmation, qu'un cahier des charges pour la programmation des robots, à mon avis.
Alors Serge Tisseron, justement, les robots empathiques, l'empathie artificielle, il faut y revenir un petit peu, et puis les robots militaires aussi, parce que c'est intéressant, il y a des cas de figure qui peuvent se poser.
Oui, alors, vous savez, il y a beaucoup de chercheurs qui disent que des robots militaires qui auraient l'autonomie de feu commettraient beaucoup moins de bavures que des êtres humains, parce que les êtres humains, souvent, se laissent entraîner par leurs émotions, alors que les robots militaires n'en auraient pas. Donc déjà, vous voyez, les émotions, ça serait pas pour les robots militaires. Alors, ceci dit, il semble que le principal obstacle à l'intervention de robots militaires sur un terrain d'action, c'est la crainte qu'ils soient retournés. Ah. C'est-à-dire qu'on rejoint complètement la question des programmes. C'est-à-dire comment fabriquer des programmes totalement sécurisés. Et c'est ça aujourd'hui qui freine, parce que bon, dans des pays ennemis, il peut y avoir des informaticiens géniaux
qui retournent le robot.
Donc si leur fabrication est freinée, c'est pas pour des raisons humanitaires, hein, c'est pas pour confronter l'ennemi à des machines, pour éviter de confronter l'ennemi à des machines genre Terminator, c'est cette inquiétude qui soit retournée. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, on voit bien que pour les robots militaires ou les robots civils, le problème principal, c'est les programmes, hein, voilà, et donc c'est autour des programmes qu'il faut y voir plus clair, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'objets aujourd'hui qui sont programmés avec des programmes pas clairs. La voiture Google, par exemple, qui se conduit toute seule, eh ben, est-ce que si elle a, entre guillemets, à choisir entre écraser un être humain ou bien produire des dégâts matériels importants, qu'est-ce qu'elle va choisir? Personne n'en sait rien. Les algorithmes sont secrets. Donc ça nécessite qu'il y ait un débat pour savoir comment c'est programmé, ces machines sont et seront programmées, ces machines qui vont constituer notre quotidien.
Le terme d'empathie, justement, artificielle, Rodolphe Gélin, vous l'acceptez en l'état ou pas?
C'est pas un terme que nous on utilise, voilà. Alors qu'on travaille beaucoup sur l'émotion. En revanche, dans le fond, voilà, l'idée que le robot va essayer de comprendre la situation de la personne en face, ça nous intéresse beaucoup. Voilà, que il faut le tout est se mettre à la place de l'autre. C'est ça que nous on cherche. On veut que le robot fasse de la prise de décision en prenant un point de vue, en capable de se mettre à la place de l'être humain, notamment. Ouais. Une démonstration qu'on aimerait bien faire un jour, c'est vous arrivez devant une table avec les mains encombrées, vous avez votre cocotte minute, vous les posez sur la table est très encombrée, le robot comprend mon plan, il sait ce que je veux faire, il voit ce qui m'embête et il va débarrasser la table. Moi, c'est cette empathie-là qui m'intéresse.
Oui, mais vous avez raison, le mot est ambigu, hein. Oui. J'explique dans mon livre, en fait, le mot, il a plusieurs dimensions.
Voilà,
alors, le robot, quand on parle d'empathie pour le robot, c'est les deux premières dimensions, les deux premiers étages. C'est quoi? Ben, c'est l'empathie qu'on appelle classiquement émotionnelle ou affective, hein. Bon, elle serait simulée, évidemment, mais c'est le robot qui serait capable, commence déjà à en être capable, de déchiffrer vos émotions, hein. Je vois que tu es triste, je vois que tu es content, etc.
Peur, très clairement, voilà. Il est capable de le faire.
Ça fonctionne. Le deuxième niveau de l'empathie, c'est ce qu'on appelle l'empathie cognitive, c'est-à-dire dire je vois que tu es, ben par exemple, je vois que tu es embarrassé et je comprends pourquoi, parce que tu sais pas opposer la cocotte minute, voilà, donc empathie cognitive, je vois que tu es embarrassé et je comprends pourquoi. Et puis il y a quand même une troisième dimension de l'empathie qui est l'empathie altruiste, le sens de la justice, etc. C'est pas évident qu'il faille s'en préoccuper pour les robots. Donc vous voyez, quand on parle d'empathie artificielle, en fait c'est une manière de réduire l'empathie, de toute la complexité de l'empathie chez l'être humain, seulement aux deux premiers niveaux qui sont chez l'enfant acquis, l'empathie émotionnelle vers 8-12 mois et l'empathie cognitive à 4 ans et demi. Et puis après, il y a beaucoup d'autres choses qui vont se construire par-dessus dans la personnalité, et cette expression empathie chez le robot, vous voyez qu'elle réduit considérablement la richesse de l'empathie chez l'être humain. Donc il ne faudrait pas croire que l'empathie du robot, ça sera l'empathie de l'être humain. C'est vraiment deux premiers étages de base.
Oui, alors justement, l'empathie du robot par rapport à l'empathie véritable, comment en tant qu'humain on va se situer par rapport à ce que la machine ou l'homme va nous renvoyer en tous les cas?
Alors comment on va se situer par rapport à ça? C'est toute la question de la simulation. Hein. C'est pour ça que je rentre en guerre dans le début de mon livre contre les confusions qui sont cultivées autour des vraies émotions que pourrait éprouver le robot, de la vraie empathie. Les robots seront toujours des machines à simuler.
Il faut garder en tête.
Et pour le garder en tête, il faut qu'il y ait des programmes éducatifs. Que les enfants dans les écoles fabriquent des petits robots, qu'ils fassent de la programmation, mais pas seulement de la programmation. Vous voyez, on a toujours une guerre de retard. Aujourd'hui, on dit qu'il faut que les enfants fassent de la programmation super, mais qu'il faut aussi qu'ils bricolent des robots. Il faut qu'ils en fabriquent, comme des enfants japonais dans les écoles, il faut avec des petits robots boxeurs, des petits robots joueurs de foot, etc. Parce que c'est en fabriquant des petits robots qu'on comprend bien comment on va passer de l'objet à l'objet animé par l'intermédiaire de la programmation. Donc de la programmation, oui, de la fabrication de petits robots, et puis des mesures éducatives pour rappeler aux enfants que les robots sont des machines. Je veux dire un mot, vous savez, il y a une chercheuse au MIT, Kat Darling, vous allez la connaître, et Kat Darling fait la constatation, bon, que je fais aussi, qui est assez évidente, qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont malmenées quand elles voient des robots endommagés ou même des robots démontés. Voilà. Et donc, elle dit, il faut des lois pour protéger les robots de la maltraitance, pas parce que les robots pourraient souffrir, mais pour éviter que des humains souffrent en les voyant maltraités. Mais des lois contre la maltraitance, les enfants vont être grondés quand ils veulent démonter leur poupée robotisée, c'est une catastrophe. C'est un signe très sain de curiosité. Au contraire, il faut les encourager à les démonter.
Allez, je vous transmets des dernières questions, des réponses courtes, s'il vous plaît. Citoyen Ram sur Twitter, l'indifférence sur les souffrances du monde est-elle un comportement programmable dans un robot? L'indifférence sur les souffrances du monde. C'est-à-dire que pour le coup, un robot qui serait totalement hermétique à ce qui se passe autour de lui, ça c'est facile.
Le robot, il est indifférent. Hein, ça, si vous voulez que je fasse un robot indifférent, ça, je peux le livrer demain.
Exactement. Il n'y a pas de casse-tête.
Le robot n'aura pas d'état d'âme. Ouais. Il n'aura pas le troisième niveau de l'empathie, qui est justement le sens de la justice, le sens de l'égalité entre humains, voilà. Et donc, il ne souffrira pas des malheurs du monde.
Quid de l'amour entre les robots, nous demande Daffy. Alors la première naissance, bientôt.
C'est le genre de choses qu'on peut programmer, hein, comme disait Serge. Ouais. Si on veut s'amuser à programmer des robots qui font des galipettes ensemble, allons-y.
Alors, il y a la projection, parce qu'il y a le Nao, il y a le Piper. Alors, en France, on voit plutôt le Piper comme une fille et le Nao comme un garçon. Et au Japon, je crois qu'ils voient plutôt le Piper comme un garçon et le Nao comme une fille.
En tout cas, le Piper comme un garçon.
Coccinelle nous dit ceci. Si on développe des robots qui apprendraient tout seuls, libres, y aurait-il des robots psychopathes, comme dans Real Human?
Si les robots apprennent par apprentissage avec un humain qui est en quelque sorte leur mère, entre guillemets, hein, ou leur père, il est bien évident que certains robots pourront apprendre des comportements délictueux, et il faudrait prévoir un programme chaque nuit qui efface les apprentissages délictueux.
Comment reconnaître aussi un programme délictueux d'un autre?
Rémi, étudiant en informatique décisionnelle et big data, rien n'est gratuit, dit-il, l'utilisation du capital sympathie acquis par la machine servira forcément au commerce.
Bien sûr.
Quelles conséquences à ces déceptions?
Dès que vous considérez votre robot comme votre ami, votre confident et votre conseiller, il est bien évident qu'il sera chargé d'un certain nombre d'informations commerciales.
Ouais. Mais comment avoir un ami, poursuit justement Rémi, qui n'a pas de morale, un non-discernement du bien et du mal face à la machine? C'est compliqué, non?
Oui, alors je sais pas.
Ça simplifie les choses, au fond.
Je pense que les machines auront pendant longtemps des capacités trop limitées pour qu'on se pose la question du discernement entre le bien et le mal. C'est lorsqu'elles vont apprendre par imitation de l'humain que tout va changer, mais c'est pas pour tout de suite.
Voilà, donc un thème éthique important aussi.
Oui, absolument.
Et vous réclamez donc un débat sur la question au sein de cet institut pour l'étude de la relation homme-robot. Exactement. Serge Tisseron. Voilà, votre ouvrage paraît chez Albin Michel, Le jour où mon robot m'aimera, vers l'empathie artificielle.
Il m'aimera pas, hein, c'est pas vrai, mais c'est nous qui le croirons.
Et le robot meilleur ami de l'homme, point d'interrogation, Rodolphe Gélin, aux grandes petites pommes du savoir. Merci beaucoup à tous les deux.